Bonjour, vous écoutez Ligne 150, le podcast de la STIB. Ligne 150, c'est la ligne spéciale imaginée par la STIB pour célébrer les 150 ans du tram à Bruxelles. Grâce à des histoires ou des anecdotes, ce podcast va vous emmener à travers l'histoire du tram de la belle époque au futur de notre réseau. Pour votre sécurité, n'écoutez pas ce podcast en conduisant. Bonne écoute avec la STIB. Troisième épisode de la concurrence pour le tram. Vous entendez cette foule qui exulte ? Nous sommes le 3 septembre 1945. Bruxelles se libère enfin de ses occupants allemands. Ayant pris peur face à l'arrivée des Britanniques et de la brigade Piron, l'armée allemande a quitté la ville en toute hâte. Les habitants bruxellois revivent et savourent cet instant de grâce. Pour célébrer ce moment, les tramways bruxellois s'habillent de drapeaux alliés et de fleurs. Ils sont assaillis par les habitants, qui n'hésitent pas à les emprunter pour partir à la rencontre de leur libérateur dans le centre de la capitale. Les concessions accordées aux tramways bruxellois viennent à expiration le 31 janvier 1945. Une convention est alors conclue entre l'État belge et la province du Brabant pour maintenir après cette date la continuité des services publics. Le Comité provisoire de gestion des transports urbains de l'agglomération bruxelloise, dit TUAB, est créé. Dès le 1er janvier 1946, ce comité provisoire a pour mission l'exploitation du réseau de tramways bruxellois, et ce, jusqu'au moment où un organisme sera à même de reprendre l'exploitation des transports en commun à Bruxelles. Il durera jusqu'au 31 décembre 1953. Entre-temps, le réseau se transforme. Pour alimenter celui-ci, on construit 4 sous-stations. Bruxelles compte déjà 900 motrices, et celles-ci empruntent entre 1947 et 1952 des nouvelles lignes, comme par exemple la ligne Rue de Stahl Drogenbos ou Schweitzer Grand Bigard. Certaines lignes disparaissent également, comme celle de la rue Saint-Lambert. 1951 voit l'apparition des premières motrices PCC type 7000, et marque là une nouvelle modernisation du matériel roulant. Les PCC comportent, entre autres, un système de freinage entièrement électrique, ainsi que des roues avec insertion de caoutchouc, offrant un roulement doux et silencieux. Cette motrice comptera 4 séries et circulera dans le paysage urbain bruxellois durant des décennies. D'ailleurs, livrée en 1952, la motrice 7008 battra le record de longévité d'une motrice en service. Elle prendra sa retraite en 2010, soit après 58 années de voyage sur le réseau. Le 1er janvier 1954 naît la Société des transports intercommunaux de Bruxelles, c'est-à-dire la STIB que nous connaissons tous. Cette association de droit public, à personnalité juridique, est gérée à la fois par l'État belge, la province du Brabant, la ville de Bruxelles et les 21 communes de l'agglomération de l'époque. Les tramways bruxellois interviennent pour moitié dans la formation du capital. À partir de 1956, en parallèle à la Petite Ceinture, de nombreuses lignes de tram commencent à être mises en site propre, ce qui améliore la vitesse commerciale de certaines lignes de la STIB. C'est aussi à cette époque de grands travaux que les usagers de la STIB peuvent emprunter le tunnel Constitution pour la toute première fois. En 1958, Bruxelles accueille pour la 4e fois de son histoire une exposition universelle. Entre-temps, la capitale belge a continué sa reconstruction et sa transformation. La STIB a réalisé elle aussi des investissements conséquents pour l'exposition. De nouvelles lignes se développent et sa flotte de véhicules est agrandie. Comme en 1935, des gares de tramway sont inaugurées sur le plateau du Hesel. Des sites propres pour les trams de la Grande Ceinture et de l'avenue Louise sont également construits. Cette exposition marque l'histoire de Bruxelles et de la Belgique. Sur les 42 millions de visiteurs de l'expo, 28% de ceux-ci sont transportés par la STIB en tram ou en bus. L'espace public a quant à lui été largement adapté à la circulation automobile. La Belgique vit bien, et ses habitants ont désormais l'opportunité de financer leurs propres moyens de locomotion. La Petite Ceinture est devenue une voie rapide, tandis que les travaux du Ring de Bruxelles ont déjà commencé. Ces travaux ont pour conséquence la création de nouveaux quartiers périphériques. Pour les atteindre, la STIB exploite petit à petit des lignes de bus, qui prendront, selon les endroits, rapidement le pas sur le tram au début des années 60. Le réseau de bus passe alors très vite de 40 à 185 km tandis que 40 km de rails disparaissent. La bussification du réseau prend de plus en plus d'importance. La concurrence des trams, liée à celle des bus et des automobiles, commence à poser problème en surface. La situation se doit d'être améliorée, et pour cela, on imagine la réalisation d'un projet qui date de 1892, une séparation des transports publics et privés par voie souterraine. Une étude des perspectives de trafic est réalisée en 1963. Les conclusions sont unanimes. Les difficultés de circulation sont nombreuses à Bruxelles et gagnent aussi la périphérie, ce qui a pour conséquence un accroissement prévisible des voyageurs de la STIB. La création d'un métropolitain demeure alors une solution évidente pour assurer des transports massifs dans le futur. La STIB opte pour une première ligne est-ouest de pré-métro partant de la place de Brouckère au rond-point Schumann dans le futur quartier européen. Les travaux débutent en 1965. Si cette ligne est rentabilisée par les trams dans un premier temps, le tunnel est construit directement au gabarit du futur métropolitain bruxellois, avec des quais adaptés à la hauteur des trams. La STIB anticipe donc l'avenir et imagine déjà ses futures lignes de métro avec un nouveau matériel roulant adapté. Mais le développement de ce nouveau réseau souterrain pousse la STIB à restructurer son réseau de surface. De nombreuses petites lignes sont supprimées et bouleversent les habitudes des Bruxellois, qui ne manquent pas de faire part de leur mécontentement. En parallèle, la voiture continue son essor en ville. Le nombre de voyageurs de la STIB passera sous la barre symbolique des 200 millions en 1968. Un choc pour les transports publics bruxellois. Mais la STIB se relève, et la construction de l'axe est-ouest de pré-métro s'achève fin 1969. Le roi Baudouin inaugure ce premier tronçon composé de 6 stations souterraines entre De Brouckère et Schumann. Un an plus tard, le pré-métro de la Petite Ceinture sera également inauguré. Ingénieuse, la STIB imagine un rôle culturel pour ces stations souterraines. C'est à cette époque que naît l'art dans le métro, et dont les nouvelles stations arborent des œuvres d'art qui enrichissent le patrimoine culturel de Bruxelles. Dans un climat social et économique dégradé, les stations de pré-métro deviennent alors le plus grand musée souterrain de Bruxelles au début des années 70. Mais le pré-métro n'échappera pas au premier choc pétrolier et à ses conséquences malheureuses. L'histoire de la STIB et de ses trams est encore loin d'être terminée. Vous avez écouté Ligne 150, nous espérons que cet épisode vous a plu. Les informations et événements mentionnés dans ce podcast proviennent d'un ouvrage très intéressant, Brussels, A Tramway Reborn, 1945-2008, par Geoffrey Skelsey et Yves-Laurent Ansart, publié par The Light Rail Transit Association. Nous remercions chaleureusement leurs auteurs, sans qui le contenu de ce podcast n'aurait pas pu être enregistré. N'hésitez pas à vous abonner à Ligne 150 sur votre application de podcast préférée, ou à nous laisser 5 étoiles et un commentaire si vous nous écoutez via Apple Podcast. Cela permettra à ce podcast d'être mieux référencé et d'avoir plus de visibilité. À bientôt sur la ligne 150.